Merci Seigneur pour ces moments passés avec toi et avec ensemble entre frères et sœurs. Et merci maintenant d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions un peu mieux te connaître à travers ce passage de Marc, Seigneur. Mieux te connaître et peut-être mieux savoir ce que tu attends de nous. Amen. Alors dans Marc 2, il y a deux grandes histoires. Hein. Ça commence avec le paralytique qu'on descend du toit et puis la fin, c'est l'appel de Lévi. On va se concentrer sur la première histoire. Alors c'est Marc 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes dans l'espace devant la porte que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux « Comment cet homme parle-t-il ainsi ?» Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alors le début du récit, c'est Jésus revint à Capernaüm et on apprit qu'il était à la maison. Une si grande foule s'assembla qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Et Jésus leur disait la parole. Jésus se retrouve donc un peu chez lui, à Capernaüm. Capernaüm, c'est où il s'était établi. Et Capernaüm, rappelons-le, ça veut dire maison de la compassion. Dans l'évangile de Marc, la maison joue un grand rôle. La maison est le lieu, peut-être symbolique, où Jésus fait des révélations particulières à ses disciples. Alors, imaginons la scène. Vous voyez une petite maison qui est littéralement envahie par une foule compacte. C'est vraiment le succès. Et Jésus leur parle sans doute du royaume de Dieu. Il parlait de ça habituellement. Et on n'entend que lui. Tout le monde l'écoute. Tout est bien. Et puis soudain, quelques hommes arrivèrent, lui amenant un paralysé, porté par quatre d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Alors la foi existe réellement chez ces hommes. Ces hommes qui portent le brancard une fois décidés, une fois actives, une fois, on va dire, presque impatientes. Ils souffrent de voir souffrir leur ami, cet handicapé. Ils savent que pour lui, Jésus est probablement la dernière chance, une vraie chance, comme Dieu seul envoie. Et c'est pourquoi leur foi se traduit en acte, en charité, en amour. Coûte que coûte, il faut traverser cette foule indifférente, par tous les moyens. Il faut ménager à l'infirme une rencontre avec Jésus. Il faut que, pour un instant, au moins, ce pauvre homme qui ne peut plus rien passe devant tous les autres. Si Jésus voit cet homme, ce paquet de souffrances, de misère, alors c'est gagné d'avance. Mais devant eux, personne ne bouge. Pas un mot, pas un cri, l'indifférence totale. Indifférence devant cette souffrance, ce malade. Devant eux, la foule dont on ne voit que des dos forme un véritable mur, empêchant tout contact personnel avec Jésus. Ce n'est plus une maison, c'est un camp retranché. Intéressons-nous à ces quelques hommes qui forment un groupe, une petite communauté, dont quatre personnes portent l'un des leurs, leur ami paralysé. Le paralysé, d'abord, c'est celui qui n'est plus maître de ses muscles, de ses mouvements. Il est comme un tout petit enfant, dépendant, dépendant de tout, dépendant des autres, dépendant d'eux pour vivre. Et je pense qu'au-delà de la souffrance physique probable, c'est une souffrance morale qu'on ne sait pas bien décrire. Ne plus avoir d'utilité sociale, être une charge pour tous. Et ce handicap, c'est peut-être symboliquement ce qui empêche toute action, tout engagement, toute idée de partage, de contrôle, d'entraide. C'est pas seulement l'action elle-même qui est paralysée, mais aussi l'esprit, la pensée qui commande l'action, cette pensée qui s'endort, qui se fige quelque part. Et d'une certaine façon, ne sommes-nous pas tous un peu comme ce paralysé, parce que chacun de nous est dépendant, dépendant des autres, on est tous liés les uns aux autres, on a tous besoin les uns des autres. La solidarité est vitale. Et lorsque les membres d'une communauté se paralysent, se replient sur eux-mêmes, coincés entre quatre murs, la solidarité se meurt. N'est-ce pas le cas de la foule, en tout cas? Mais qu'est-ce qui peut nous paralyser ainsi? Qu'est-ce qui peut nous empêcher de penser et d'agir librement? Alors sans doute, d'abord l'angoisse et la peur, source principale de ce mal en nous. L'angoisse devant les défis de la vie, la peur de l'autre, de l'inconnu, la peur de la liberté. Et de là viennent nos sentiments d'impuissance, d'incompétence, ces sentiments qui nous culpabilisent, qui nous conduisent à l'indifférence, qui nous conduisent à l'engourdissement de nos pensées. Le paralysé, tout comme l'aveugle de Jéricho, c'est une représentation de tout le tragique de l'existence de chacun, au moins que chacun de nous expérimente tôt ou tard dans sa vie. Mais revenons au récit. Les hommes qui arrivent là, eux ne sont ni aveugles, ni paralysés. Ils sont en fait les autres, les prochains de ce malheureux. Ils le portent à la force de leurs bras, mais aussi à la force de leur amitié. Ensemble, ils portent la souffrance de leurs frères. Ils compatissent, ils souffrent avec, ils sont de Capernaum quand même. Ils croient que la rencontre personnelle avec Jésus peut changer radicalement la vie de leur ami. Et voyant l'obstacle devant eux, ils n'hésitent pas à le contourner. Ils n'hésitent pas à percer cette maison qui enferme Jésus, l'empêchant de voir, d'entendre et de soulager la souffrance de leur ami. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent paralysé étendu sur sa natte. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. ou un toit. Bon, c'était pas un toit comme ça, c'était des toits plats en terre et en branchage, mais ils ont pas fait un petit trou, quoi. Ils ont passé un homme allongé sur un brancard. Alors, imaginons, ces quatre hommes qui portent le paralysé montent le petit escalier extérieur de la maison. Déjà, ça devait pas être facile parce que l'escalier n'est pas très grand. Et personne ne les remarque. Personne ne propose de s'écarter un peu pour les laisser passer. Hein. Puis ensuite, ces hommes se mettent à démolir le toit. Ils font un trou juste au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et tout se remue ménage, parce que quand même, il a dû tomber des choses, ça provoque aucune réaction. C'est pas étonnant, non? L'indifférence jusqu'où elle va. La foule est totalement aveugle, sourde, muette, paralysée. En un mot, complètement indifférente. Maintenant, mettons-nous à la place de Jésus. Celui-ci qui est tout concentré sur son enseignement, il voit soudain le toit se fissurer, le ciel qui s'ouvre, et alors descend devant lui un infirme couché sur une civière, soutenu à bout de bras par quatre hommes. Une vivante image de la compassion et de la solidarité. L'homme est là, au pied de Jésus, plus immobile que jamais. Et tout le monde attend une parole de guérison. Mais les mots qui viennent semblent ignorer totalement la souffrance physique. Jésus, voyant leur foi, dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Est-ce ça qu'il attendait, le paralysé? Jésus n'a semble-t-il pas évalué et répondu au niveau de la demande? Et il n'a pas répondu à ce niveau-là parce que d'emblée, il veut situer son action au niveau essentiel, au niveau définitif. On demande la santé du corps, il donne la liberté du cœur. On réclame le pouvoir d'agir, il donne d'être accueilli par Dieu. Et au risque de décevoir le paralysé, au risque d'inquiéter les scribes, il dit tout de suite la parole du salut. Parce qu'il est le Fils de l'homme et qu'il est venu pour apporter le salut de Dieu. Mais pourquoi cette hâte? Pourquoi bousculer et désappointer l'espérance immédiate? Marc dit, fais dire à Jésus, tes péchés sont remis. Jésus a vu leur foi, il compte sur leur foi, il veut répondre à leur audace. Peut-être par son audace à lui, son audace de fils de Dieu. Et voilà pourquoi il révèle d'un coup de quoi est faite l'initiative du Père. Il donne bien plus que ce qui lui est implicitement demandé. Il donne une guérison qui va bien au-delà de cette vie terrestre. Il accorde la guérison éternelle. Et puis en opposition à la foi de ses amis, on a l'incroyance aussi des scribes. Elle est présente au rendez-vous. Les scribes, des intellectuels, bien assis pour écouter, pour peser, pour juger. Pourtant, ils ont bien compris, ils ont bien raisonné, ils ont raisonné juste. Ils ont posé la vraie question, la question essentielle. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu? Mais s'ils ont posé la bonne question, ils se dérobent devant la vraie conclusion, la bonne conclusion. Il fuit l'acte de foi. Plutôt que d'admettre « cet homme fait des œuvres de Dieu », il préfère dire « cet homme blasphème ». Il en sera ainsi dans tous les temps. Il se trouvera toujours des hommes pour refuser le paradoxe de Christ, pour ramener Christ aux dimensions de l'ordinaire. Et pour se trouver insoutenable que Jésus-Christ, vrai homme, agisse en vrai Dieu. Bon, c'est peut-être facile de jeter la pierre aux scribes, mais imaginons pour eux ce que ça avait de déroutant. Et enfin, la guérison va venir, dans un second temps, comme une récompense de la foi. Et puis comme un signe pour ébranler l'incrédulité, l'incroyance des scribes. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et là, brusquement, l'intérêt se porte sur le paralysé, l'ex-paralysé. Depuis le début, il n'a rien dit. Mais voilà que Jésus lui demande d'être actif dans sa propre guérison. Lève-toi. Va-t-il se lever ? Sur la seule parole de Jésus, va-t-il accomplir ses gestes impossibles, impossibles pour lui ? Vous l'auriez fait ? C'est pas moi. Mais c'est en obéissant à la parole qui va traduire sa foi. Et son corps va se dénouer, se déplier. Ça a peut-être été douloureux, cette affaire-là. Et puis tout au long de cette minute de confiance, la guérison accompagne l'obéissance. Des années durant, on l'avait traîné sur sa civière. Voici que lui-même, il emporte son brancard, tout son passé de misère et de désespoir. Voici que sur l'ordre de Jésus, il enlève lui-même tous les signes de sa paralysie. Or, pour cet homme, c'est une nouvelle vie qui commence. C'est une nouvelle naissance. Pour la foule dont l'indifférence, l'aveuglement, la paralysie ont été ébranlés par cette démonstration lumineuse du royaume. Pour cette foule s'offre la possibilité de mieux prendre conscience que ce royaume, il faut le vivre et le construire, ici et maintenant, avec tous les autres. Il ne suffit pas de connaître les paroles de Jésus, il faut les vivre pour que le royaume advienne. Pour Jésus, cette histoire va lui permettre de sortir de ce petit monde de bien-pensants dans lequel la foule voulait l'enfermer. C'était pour rester entre gens de bonne compagnie, pour ne pas se rendre impur au contact des pécheurs. Et dans les versets qui suivent cet épisode, Jésus fera exactement l'inverse que de rester entre les gens de bonne compagnie. Allant vers le bord du lac, il prendra un repas dans la maison de Lévi, le publicain, l'impur, le pécheur, et il en fera un des siens, un de ses disciples. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprend cet épisode de l'Évangile ? Elle nous apprend que, au oui de Dieu, au oui que Dieu prononce sur le monde en Jésus-Christ, répond le oui de l'homme à Jésus-Christ. Le oui de la foi qui balaye toutes les impressions d'impuissance, oui de l'espérance, quand l'homme s'appuie sur Dieu et uniquement sur Dieu. Oui de la charité active qui ne s'arrête jamais devant la difficulté d'amener l'autre à la rencontre de Jésus. Souvenons-nous que Marc écrit pour les jeunes communautés de son temps, ces jeunes communautés qui se rassemblent le dimanche dans les maisons pour écouter la parole et rompre le pain. la maison peut être ici l'image de la communauté, de l'Église. Alors on peut, dans ce récit, trouver une mise en garde contre une tendance déjà présente, probablement à l'époque, de centrer la pratique religieuse sur des célébrations, du cocooning, qui prend plus d'importance que la mise en œuvre immédiate du royaume dans la communauté et dans nos vies. À travers cette histoire de l'Évangile, Jésus vient nous redire ce qui paralyse, c'est le péché. Et à partir de cette conviction, un double réflexe ou un double effort est demandé aux hommes. D'une part, et avant toute chose, le réflexe du brancardier, du brancardé, ne pas nous résoudre à notre propre paralysie, comme si le péché, la tristesse, l'échec spirituel étaient des fatalités dans nos propres vies. Acceptons, s'il le faut, que d'autres saisissent notre brancard pour nous amener à Christ. Laissons-les faire, même si c'est humiliant. En effet, ce sont eux qui sont dans le vrai, puisqu'ils espèrent. Et si nous sommes dans la position de se paralyser et que Jésus nous dise « Lève-toi », ne le faisons pas attendre, comme si c'était impossible. Rien n'est impossible à Dieu. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ne laisse pas passer ce jour. Comme se paralyser, saisis l'opportunité qui t'est donnée aujourd'hui. D'autre part, ayons aussi le réflexe du brancardier. Ne pas nous résigner à la paralysie de nos frères, ni aller voir loin du Christ. Ne pas cesser de prier pour eux, de les amener à Jésus. Car on n'a pas le droit de nous dire « c'est définitif, c'est irréversible, pour lui, pour elle, il n'y a plus que la civière, il n'y a plus rien à faire ». Et si nous sommes dans la position du brancardier, ne laissons pas le brancard et notre ami attendre. Ne le laissons pas attendre que nous ayons fini de ronronner gentiment ensemble pendant que nous étudions la parole. C'est pas que étudier la parole est inutile. Que nous profitions de la communion fraternelle, en oubliant que la foi sans les actes est une foi morte. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de voir dans cette foule, cette maison qui enferme le Christ, l'image de l'Église hiérarchisée qui, au fil des siècles, a recouvert d'une chape poussiéreuse le message du Christ. Maintenant, les fidèles dans des pratiques et des rites, une Église fossilisée, repliée sur elle-même, sur la défensive devant un monde en constante évolution. Jeudi, en étudiant la vie d'Abraham, on a noté la promesse qui lui a été faite. « Tu seras une source de bénédiction. » Et Abraham est devenu une source de bénédiction jusqu'à nous. Et pourquoi il est devenu une source de bénédiction? Uniquement par la foi. Abraham a été ce qu'il était par la foi. C'est par la foi aussi que ces quatre hommes ont porté ce paralysé. Ils l'ont amené jusque devant Jésus. Et c'est par notre foi que nous serons en bénédiction à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous côtoient, à nos amis. Aurons-nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, de la foi pour ceux qui nous entourent, de la foi pour les amener jusque près de Jésus, qui est toujours là pour pardonner, toujours prêt à pardonner et à les guérir de leur souffrance. Saurons-nous empoigner résolument ces brancards qui encombrent notre monde? C'est la responsabilité que Jésus nous a laissée, amener ou porter notre prochain, notre ami jusqu'à lui. C'est ce qu'il nous dit à la fin de l'évangile de Marc. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen.